Bonsoir, c'est l'émission des Apatrides Anonymes, émission du jeudi 24 janvier 2022 sur choc.ca et aussi depuis quelques semaines sur les ondes FM de Radio Victoria. Les Apatrides, votre rendez-vous bimensuel sur le racisme, l'immigration, les frontières, de plus en plus sur les montées de l'extrême droite ailleurs, mais ici aussi. Simon à l'animation pour aujourd'hui. Je vous ferai des brèves sur le Portugal, la Turquie, l'Espagne. Quelques brèves en lien avec le mois de l'histoire des Noirs. Je suis en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu.
Bonsoir Simon.
Tes sujets, j'avais noté Israël-Palestine.
Et actualité autochtone. Et aussi, on parle un peu des certains malheurs qu'il y a eu au niveau de l'immigration récemment au Canada aussi.
Parfait. Israël-Palestine dans quelques minutes, puis exactement. Le reste tout au long de l'émission. Marie-Ève est à la console. Elle va tantôt nous offrir une entrevue live avec Nathan du PASC, le projet Accompagnement Solidarité Colombie, pour des nouvelles plus fraîches que ce qu'on peut trouver dans les médias traditionnels sur la Colombie. Un agenda avec quelques suggestions vers la fin de l'émission et, évidemment, comme toujours, de la bonne musique. Faut le souligner, je pense que c'est peut-être une première en environ 60 émissions. Il n'y a rien sur la France aujourd'hui. On peut pas passer sous silence. Écoutez, c'est une journée un peu spéciale. Il y a eu l'attaque de par la Russie de l'Ukraine hier soir pour nous et qui a duré. Tout le monde est un peu...
Qui va durer, oui.
C'est ça, tout le monde est un peu en train de se demander qu'est-ce qui se passe. On s'intéresse beaucoup aux questions migratoires aux Apatrides Anonymes. On avait déjà le chiffre du Haut-Commissariat tantôt de 100 000 déplacés, chiffre qui va probablement augmenter. Donc, mais on ne sait pas si c'est des déplacés internes. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en Pologne, en Hongrie. Et le HCR est en train de s'organiser pour accueillir des réfugiés dans les frontières plutôt ouest de l'Ukraine.
Ça fait moins de 24 heures.
Ça fait moins de 24 heures. Donc, évidemment, on va prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe et on va probablement la prochaine émission revenir là-dessus.
Ben oui.
Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer l'émission des Apatrides Anonymes? Donc, dans un tout petit instant, on vous revient avec plus d'actualité. Avant de céder le micro à Mathieu, quelques brèves internationales. Petit brassage électoral sur la péninsule ibérique. Au Portugal, fin février, le Parti socialiste d'António Costa, qui était déjà premier ministre depuis 2015, a remporté pour la première fois une majorité de sièges aux législatives. Un monsieur et un parti plutôt favorable aux personnes migrantes, c'est lui et la coalition qui dirigeait, qui avait plus ou moins montré l'exemple au reste du monde en début de pandémie en régularisant massivement et en étendant les soins de santé universels à tout le monde, peu importe le statut. Il y avait quelques pays qui avaient emboîté le pas, mais c'est vraiment le Portugal qui était resté un modèle sur cette question-là. On verra évidemment dans les prochains mois ce qu'une majorité socialiste au Portugal donne sur les questions migratoires. Mais avec son puissant et seul voisin, l'Espagne, où la droite du Parti populaire vient de remporter une partielle en Castille-Léon, énorme région, je pense même plus grande que le Portugal, mais qui touche le Portugal, ce sera peut-être pas facile. Il risque d'avoir beaucoup de pression extérieure de la part de l'Espagne. Donc, lors de cette élection en Castille-Léon, on a aussi constaté une forte progression du parti d'extrême droite Vox. Mm-hmm. Donc, le Parti populaire, de droite aussi, mais peut-être un peu moins extrême et minoritaire, mais s'il y a une alliance avec Vox, la droite et l'extrême droite unies seront majoritaires en Castille-Léon. Cette progression de l'extrême droite ouvertement franquiste, ça correspond à une tendance assez lourde en Espagne. Vox avait doublé ses appuis aux élections générales de 2021, en promettant, entre autres, de lutter contre les ONG qui viennent en aide aux personnes migrantes. On s'en va en Espagne outre-mer, aux îles Canaries, en plein Atlantique, qui fait face depuis maintenant 3-4 ans à un afflux de personnes migrantes en constante progression. Ben, un des phénomènes qu'on remarque de plus en plus sur les terrains, c'est la quantité de mineurs isolés qui débarquent sur les îles et qu'il faut absolument prendre en charge. Les responsables locaux sont découragés. Il n'y a plus de place du tout dans les centres d'hébergement. On crie à l'aide au gouvernement espagnol. On implore les municipalités de prêter des bâtiments vacants, et il y en a, mais plusieurs villes refusent. Donc, on en arrive au campement avec des tentes. Le gouvernement veut poster des militaires sur les plages pour déterminer l'âge des mineurs et faire en sorte de démontrer qu'ils ne sont pas mineurs et mettre le maximum de personnes dans les infrastructures pour adultes. Je ne sais pas comment on fait ça, dater des migrants, là, carbone 14 ou enfin. Il serait peut-être temps quand même que Madrid prenne la situation au sérieux parce que 2022 s'annonce comme une année record et si rien n'est fait rapidement, on se dirige vers une importante population migrante, mineure et itinérante aux îles Canaries. Donc plein de jeunes Africains qui dormiraient dans la rue, ce qui exacerberait probablement encore plus les tensions raciales entre locaux et personnes migrantes. Maintenant, dernière toute petite brève, c'est presque une citation raciste. En fait, c'est difficile à classer. Ça concerne la FIFA, notre chère association mondiale de soccer, de foot. Son président italo-suisse Gianni Infantino, nouveau résident du Qatar, qui est allé de quelques remarques bizarroïdes, des propos qualifiés de lunaires dans certains éditoriaux.
Lunaires.
Oui, vous allez voir, c'est un peu space. Il prenait la parole au Conseil de l'Europe à Strasbourg pour défendre son projet de Coupe du Monde tous les deux ans, en affirmant que ça aiderait les migrants africains. Et il me semble que c'est logique. Mais comment cela se peut-il? Cela se peut-il, me demanderez-vous? Ben voilà, s'il y a plus d'opportunités de jouer au soccer dans des équipes professionnelles, ça donnerait de l'espoir aux Africains. Et comme ça, il y en a moins qui mourraient en traversant la Méditerranée. Vous me suivez?
Non.
Non, c'est pas grave.
Okay.
Human Rights Watch et ben, les autres ne sont pas tout à fait d'accord avec le constat de M. Infantino, à savoir que jamais le football est évoqué lors des témoignages de migrants qui traversent en mer. On cherche plutôt à fuir ben, la misère, la guerre, les pénuries, etc. Mathieu, je t'ai assez volé de temps. À ton tour, on s'en va l'autre bout de la Méditerranée complètement, Israël-Palestine.
Oui, ben tu m'aurais volé du tout, Simon. Merci de me passer la parole. Donc, ben on est, c'est arrivé il y a quelques semaines, mais il y a un rapport publié par Amnesty International qui a conclu qu'Israël perpétue un système d'apartheid contre le peuple palestinien. Amnesty a déterminé qu'Israël applique un régime d'oppression et de domination dont les victimes sont les Palestiniens sous occupation militaire, les citoyens palestiniens en Israël et même les réfugiés palestiniens en exil à l'extérieur du pays d'origine. Amnesty est devenue la plus importante organisation de défense des droits humains à dénoncer le système israélien d'apartheid. Le rapport suit de quelques mois seulement le rapport celui de Human Rights Watch qui est sorti l'année passée, qui a déterminé que les responsables israéliens commettent le crime d'apartheid.
Je pense qu'on avait parlé d'ailleurs.
Oui, on avait parlé à l'émission. On parle ici évidemment d'une discrimination institutionnelle grave et l'oppression systémique d'un groupe par rapport à un autre. Le droit pénal international définit l'apartheid comme un crime contre l'humanité en vertu de la Convention sur l'apartheid et du statut de Rome. Donc, en plus de Human Rights Watch, il y a aussi le plus grand groupe israélien de défense des droits de la personne, B'Tselem, qui a déclaré qu'Israël est un régime d'apartheid l'année passée aussi. L'un des thèmes centraux du rapport est le foyer, un enjeu qui a pris une dimension d'autant plus poignante pour les familles palestiniennes du secteur occupé de Jérusalem-Est dans les dernières...
Dans le sens de maison? Dans le sens...
Non, mais le foyer original, que c'est territoire d'origine ancestrale depuis la nuit des temps. Donc, l'expulsion forcée des familles palestiniennes, de deux familles palestiniennes et au moins de 200 autres familles de Jérusalem-Est, qui sont toujours menacées de voir leur maison démolie pour faire place aux colons juifs israéliens, ben c'est aussi c'est le lien avec le foyer là, qui est revendiqué par Israël.
C'est un foyer dans le sens collectif là, du terme,
dans
culturel
sens,
aussi.
Dans le sens notre maison, oui, voilà. Selon Voix juive indépendante à Montréal, le consensus est de plus en plus fort au sein de la communauté internationale de défense des droits de la personne par rapport au constat d'apartheid. Un sondage réalisé l'an dernier, par exemple, révèle qu'au moins un quart des Juifs et Juives aux États-Unis estiment qu'Israël est un État d'apartheid. Plusieurs anciens hauts responsables du gouvernement israélien ont aussi admis que les pratiques israéliennes à l'endroit du peuple palestinien relèvent de l'apartheid, dont des anciens ministres donc israéliens. Donc, pour citer pour une dernière fois Voix juive indépendante, ce qui a changé, c'est qu'on dit maintenant la même chose à des niveaux de plus en plus élevés sur le plan international et à renfort d'arguments juridiques de plus en plus concrets. Le ministre israélien des Affaires étrangères, qui s'appelle, on peut pas l'inventer, là, Yair Lapid, a vivement rejeté les allégations de l'ONG, estimant qu'elles rapportaient les mensonges répandus par les organisations terroristes. Avant la publication...
C'est le traité Amnesty de
Attends, j'ai pas fini, Simon, là. Avant de la publication du rapport, il a demandé Amnesty de le retirer, de ne pas le déposer. Je le cite, Amnesty était naguère une organisation estimée, elle est devenue une organisation radicale.
Bon, bon, bon.
Et il a accusé d'antisémitisme, évidemment, comme d'habitude. Le porte-parole de la diplomatie américaine a dit rejeter l'idée que les actes d'Israël constituent un apartheid, tout en assurant prendre au sérieux toutes les accusations de violation des droits de la personne. Et au Canada, la seule réaction officielle, ça a été un communiqué de Affaires mondiales Canada qui rejette en bloc le rapport.
Mélanie Joly
n'a pas fait de conférence de presse là-dessus. Non, c'était pas assez important. Amnesty exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer un embargo sur les ventes d'armes à Israël et des sanctions aux responsables israéliens les plus impliqués dans le crime d'apartheid. L'ONG a aussi demandé à la CPI, qui a diligenté l'an dernier une enquête pour crimes contre l'humanité dans les territoires occupés. On avait
c'est
parlé
vrai,
aussi.
On n'entend pas trop parler de la progression de cette histoire-là.
Non, c'est assez long, ces choses-là. Donc, Amnesty a demandé d'ajouter le crime d'apartheid au dossier de la CPI. Okay. Et depuis, pour terminer, Simon, là-dessus, la semaine passée, ben, la petite vie continue, la routine, la répression, les conflits. Des heures ont opposé des manifestants palestiniens à la police israélienne dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, l'histoire des maisons des familles palestiniennes, après la visite d'un député d'extrême droite israélien. Donc, 31 Palestiniens blessés, plusieurs hospitalisés, des arrestations. On sait que Sheikh Jarrah est devenu le symbole de la lutte contre la colonisation israélienne à Jérusalem-Est. Le député Itamar Ben-Gvir de la formation d'extrême droite, Sionisme religieux, c'est le nom du parti, s'est rendu à Sheikh Jarrah pour ouvrir un bureau et soutenir les habitants juifs du quartier. Parce qu'avant sa visite, il avait accusé la police de ne pas avoir réagi à un incendie présumé criminel qui a brûlé la maison d'une famille juive dans le quartier. Donc, ses partisans l'ont rejoint dans le quartier en scandant « mort aux terroristes » et ça a donné des jets de chauffeurie pendant 12 heures. Donc, c'est ça un peu la routine aussi à travers, oui, un rapport, on parle d'apartheid, mais finalement, dans le quotidien, ben, les Palestiniens se font expulser de leur maison, se font rentrer dedans, se font arrêter. Donc, un rapport peut-être symboliquement intéressant, mais est-ce que ça va donner quelque chose?
On verra.
Tant que Trudeau l'appuiera pas, on pourra pas rien faire.
Ouais, ben quoi que l'appui de Trudeau, je sais pas s'il est vraiment fondamental là-dedans. Il risque pas de l'appuyer bientôt. On connaît un peu. Merci Mathieu, un condensé de ce qui se passe dans la région. Merci encore. Donc, toujours aux apatrides sur choc.ca. Avant d'accueillir Marie-Ève en studio avec Nathan du PASC pour parler de la situation récente en Colombie, on va aller en musique pour leur laisser le temps de s'installer en studio. On écoute une pièce d'une compilation qui est actuellement dans le palmarès de Choc, compilation de Early Rush édition double dose qui s'appelle FMC's FMC apostrophe Z, compile multilingue local qui contient du rap old school et du rap plus contemporain. L'artiste s'appelle Lacoche, composé de Ella Grave ou Ella Grave, Geneviève Gravel et Patricia Chial. La tune s'appelle Phoenix. Bra, bra, dime. Cha, cha, cha. Dime lo que tú sientes. Rapero, dolores en tu cuerpo. Como perro. Agitación, agitación, agir y agir. Par rapport a ta situación. Pose por question. Solo rima con ambición. Con tus palabras en armonía. Vas a lograr orden en tu cabeza. Ya tú sabes, ya, ya, ya tú sabes, ya, ya. Ruidos en las calles, dos, calles. Cada oveja con su pareja. Su compra, guacho, c'est un attentat. Terminarás detrás de la reja. Fumando que se cigarro, pues agarro el dinero. Yo no al pan pan vino vino, hermano. Fingers. I pray to God, cause I know he answers my prayers. Oh Lord, won't you help all these beginners? I'm trying to save a few before the pull of my triggers. I am the tiger, I'm the lion. I am the moon and that snowflake. Got Christmas, the flower in June. I'm that poster on your wall, up in your room. All them fish in the sea and the harpoon. When smoke cleared, I turn into a bird. No pain, no gain, you gotta feel the burn. So good, man, I'm living on the verge. I spent a few years kicked out on the curb. So don't you tell, I won't say a word. Old school as hell,
It's the point of return. Everybody out here that's trying to hit a nerve, stay in your lane, bitch. Or I'm gonna make you swerve.
Écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. On va aller en Colombie aujourd'hui où la situation s'est considérablement détériorée. Depuis le début janvier, mais c'est rare qu'on a des bonnes nouvelles venant de la Colombie. Et à quelques mois des élections présidentielles, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire le point avec nos camarades du projet Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC, qu'on a déjà eu en entrevue ici, Florence notamment qui était venue. Alors, cette fois-ci en studio aujourd'hui avec nous, c'est Nathan. Bonjour Nathan.
Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Qui est allé d'ailleurs en Colombie quelques mois en 2021, c'est bien ça?
Oui, pendant la grève.
Pendant la grève par rapport à
oui, par rapport à la réforme fiscale.
À la réforme fiscale, c'est ça.
Le gouvernement néolibéral de Iván Duque.
Voilà. Écoute, Nathan, c'est ça, en janvier, il y a eu des affrontements entre les FARC, l'Armée de libération nationale, qui est le ELN, dans le département d'Arauca en particulier, qui est dans l'est du pays. Donc, ces affrontements-là se sont intensifiés, plusieurs dizaines de morts, plusieurs assassinats ciblés aussi. Il y a même eu des attentats contre des centres gérés par la communauté. Tu peux-tu nous revenir un peu là sur ce qui se passe depuis début janvier?
Oui, alors comme tu le disais, le mois dernier, le 19 janvier, il y a eu un attentat à la voiture piégée dans la petite ville de Saravena, qui est une ville historiquement reconnue pour la force de ses organisations sociales, paysannes et communautaires. L'attentat, qui est ouvertement commandité par le soi-disant Front 28 des FARC-EP, a ciblé le siège social des organisations communautaires et des coopératives de transport, faisant un mort et plusieurs blessés. Donc, cette situation, elle s'inscrit directement dans une chaîne d'événements qui cherche à faire plier les organisations sociales, dont les pratiques et les revendications à caractère autogestionnaire gênent le bloc au pouvoir colombien. Parce que Arauca, c'est un département qui est connu pour ses luttes de classe paysanne massive, notamment pour l'accès à l'eau potable, à l'éducation, bref, aux services de base. Et en plus de leur campagne pour la permanence du territoire, c'est-à-dire l'occupation des terres paysannes pour former un territoire agricole. Donc, cette situation ne fait pas exactement l'affaire de l'État, qui brille par son absence quant à l'offre des services essentiels, mais qui redouble par contre d'efforts pour appuyer tactiquement le grand capital monopolistique et extractiviste dans des conditions, des termes qui sont militaires, mais aussi par la, un appui juridique pour la dépossession des terres paysannes. Donc, il s'agit d'un territoire qu'on peut le voir, qui a un équilibre géopolitique fragile, et cette fragilité-là fait converger des forces qui sont conflictuelles, notamment les guérillas des FARC et de l'ELN, mais aussi des paramilitaires qui sont au service de la grande propriété terrienne puis du capital extractif. Donc, on peut se rappeler qu'Arauca, c'est un département dont le contrôle est géopolitiquement stratégique pour l'État colombien, puisque frontalier avec le Venezuela, et l'État ici agit un peu comme un relais de la stratégie impérialiste des États-Unis qui veut donc contrôler le département en cas d'invasion, par exemple, envers le Venezuela. Bref, on peut constater la complexité des enjeux qui structurent la dynamique conflictuelle du département d'Arauca, mais aussi la somme des difficultés auxquelles les organisations sociales sont confrontées chaque jour, car elles doivent naviguer à travers cette série de conflits politiques tout en luttant pour leur propre agenda, c'est-à-dire les revendications de base à l'eau, à la santé, à l'éducation.
Tu parlais de, tu sais, tu parlais, bon, les FARC, les paramilitaires, il y a le LN, il y a les narcotrafiquants, il y a les compagnies privées, dont les pétrolières, tout ça, il y a l'État lui-même qui brille pour son, par son absence, mais il y a quand même un bras armé, tu sais, c'est quand même difficile de s'y retrouver, puis de savoir, tu sais, qui est responsable de quoi, au juste, là, tu peux-tu nous éclairer là-dessus?
Oui, ben en ce qui concerne la question des FARC et de l'ELN, on peut rappeler que c'est des guérillas qui ont déjà été en guerre dans le département d'Arauca, mais ici, il y a clairement une rupture là, par rapport à la situation antérieure, parce que c'est pas exactement les mêmes acteurs dont on parle, parce que le Front 28 et le Front 10 des FARC-EP qui sont actifs aujourd'hui dans le département d'Arauca. Ils ont des pratiques qui sont beaucoup plus proches du paramilitarisme que des FARC historiques, et leur authenticité a d'ailleurs été désavouée par le bataillon de la seconde Marquetalia, à savoir les anciens combattants des FARC qui sont de retour aux armes après une tentative manqué de retour à la vie civile suite à les échecs des accords de paix de 2016, puisque les modalités de l'accord de paix n'ont pas été respectées. Mais sinon, en ce qui concerne, disons, la diversité des acteurs, je pense qu'il faudrait... On peut pas vraiment comprendre la complexité du conflit colombien sans, disons, saisir cette thèse-là initiale, c'est que le conflit colombien, c'est un conflit de classe qui a dégénéré dans un conflit armé, et dont les groupes armés ont fini par obéir à une logique qui leur est autonome. Puis, en ce sens-là, c'est que il y a effectivement des acteurs qui obéissent à des intérêts précis. Par exemple, il y a d'un côté le bloc au pouvoir qui est formé par la grande bourgeoisie colombienne, le capital étranger, mais qui s'appuie tactiquement sur le paramilitarisme et le narcotrafic pour assurer son hégémonie politique. Et de l'autre côté, il y a les classes subalternes, oui, les paysans, les ouvriers, qui sont parfois constitués en guérilla, mais ces groupes-là ne sont pas forcément représentants de ces classes-là, étant donné qu'il y a aussi des organisations sociales qui sont très, très actifs sur le terrain. Fait que, dans le cas de l'ELN des FARC, c'est des guérillas d'origine paysanne qui se sont constituées en 1964 avec une affinité pour la tactique de la prise du pouvoir qui était basée sur l'expérience de la révolution cubaine. Mais si d'un point de vue tactique, l'ELN est toujours resté plus proche de sa base, les FARC se sont, au cours des années 80, surspécialisés dans le domaine militaire, et ça a eu pour effet de les couper de leur base sociale, mais aussi qui se rabattent à des sources illicites de financement pour alimenter leurs opérations. Puis on peut penser ici aux enlèvements, et au narcotrafic,
au trafic de la coca. Ouais.
Exact, qui a absolument pas fait l'unanimité dans la gauche colombienne.
Ouais.
Fait que dans le cas des paramilitaires, j'en ai touché un mot, c'est un peu plus clair, c'est des groupes d'extrême droite armée qui obéissent aux intérêts de la grande propriété foncière et qui ont puisé leurs sources de financement à partir de là, notamment par la dépossession des terres paysannes. Ils sont d'ailleurs responsables des deux tiers des morts du conflit armé colombien.
Puis tu l'as mentionné rapidement au début de ta réponse, que le processus de les accords de paix, ou en tout cas le processus de pacification entre guillemets avec les FARC, les paramilitaires qui a eu lieu en 2016, là c'en est où à peu près, tu sais, aujourd'hui, parce que bon, on sait que Iván Duque a été élu en 2018, puis lui était farouchement opposé à l'accord signé en 2016. Fait que Tu en as parlé un peu, là, mais à peine. Tu peux-tu développer un peu là-dessus?
Oui, peut-être je ferai un dernier point en ce qui concerne la situation d'Arauca, juste pour que ce soit plus clair. C'est-à-dire que les fronts 28 et 10 des FARC ils semblent plutôt pencher du côté du bloc au pouvoir, au sens où ils ont une stratégie qui est proche de celle du paramilitarisme, je le disais.
Ouais.
Mais ce qu'ils cherchent à faire dans le département, je pense que c'est important de le souligner parce que les organisations sociales ont un point de vue qui est très clair là-dessus, c'est qu'ils cherchent faussement à les assimiler, c'est-à-dire les organisations sociales, à l'ELN. Mais ça, leur objectif là-dedans, c'est le front du FARC, c'est de réintroduire la culture de la coca dans le département d'Arauca, alors que les organisations sociales paysannes, en 2008, ont milité, suite au congrès de l'ANUC, pour une éradication de la coca sur le territoire. Donc, ils sont pris, les organisations sociales sont prises comme cible, et c'est cette situation qui fait dire à la camarade Sonia Lopez, qui est une leader paysanne d'Arauca, que l'État se présente comme neutre dans un conflit entre bandits, alors qu'il est le premier responsable du conflit dans la région, entre autres parce qu'il appuie les entreprises qui créent du conflit dans la région. On peut penser aux compagnies minières, au pétrole, mais aussi parce qu'il ne fournit aucune mesure de base pour assurer la paix sociale. Et là, je reviens à la question à propos des FARC.
Ouais.
Qu'en est-il des accords de paix?
Ouais.
Je pense qu'on doit admettre un point qui est peut-être difficile, mais c'est que c'est un échec qui est cuisant. Et ça pour plusieurs raisons. Puis le premier, c'est que l'accord a été soumis à un référendum qui a été rejeté à majorité par la population. Mais ça s'explique plutôt par une campagne de propagande qui a été menée par l'extrême droite et dont la tête d'affiche est l'un des parrains du paramilitarisme colombien, l'ancien président Alvaro Uribe, où les témoignages sont accablants, pléthoriques, pour dire qu'il y a des liens très très étroits avec le paramilitarisme, et donc une extrême droite organisée très anticommuniste qui ne pouvait pas accepter la paix en Colombie, étant donné que ses intérêts sont bien placés dans le narcotrafic et dans le paramilitarisme.
Ouais.
Et donc l'échec avec le référendum, ça donnait toutes les leviers d'action à la droite pour rejeter les accords de paix, mais aussi, d'un point de vue donc très factuel, l'accord de paix est un échec parce que, et ça c'était très clair dans l'accord qui a été signé avec les FARC en 2016, c'est que le conflit armé colombien, il y a des causes qui sont sociales. Et tant que ces causes-là sociales ne sont pas adéquatement traitées, il va toujours avoir de la violence de classe en Colombie. Et la question de la réforme agraire, c'est un de ces enjeux-là qui est très concret, parce qu'en 2018, un rapport d'Oxfam statuait que 81% des terres sont possédées par 1% de la population, des grands propriétaires terriens, et c'est une situation qu'on peut caractériser comme honteuse là, dans un pays où plus de 20% de la population vit toujours à la campagne, vit de la terre, et c'est un chiffre qui descend d'année en année en raison de la dépossession des terres. Je rappelle que la Colombie est avec la Syrie dans les pays où le plus de déplacés internes.
Ouais.
Donc,
on en a déjà pas mal parlé sur l'émission des déplacements de population. On va prendre une petite pause, te laisser musical, te laisser reprendre ton souffle, puis on revient tout de suite. Toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca et on est toujours avec Nathan du projet Solidarité, Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC, pour parler de la situation là-bas. Le PASC, donc, on va en parler un peu. Vous êtes particulièrement présent dans le département d'Arauca. Au-delà du fait là, que c'est le siège historique de l'ELN, qu'est-ce qui fait la... Tu l'as abordé un petit peu là, avec les notions de territoire tantôt, mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce département-là, puis pourquoi votre travail est si important là-bas?
Alors, je dirais que de manière générale, le travail du PASC est important parce qu'il permet d'assurer, d'appuyer les associations locales qui font du travail sur le terrain, de consolider leurs organisations. Et le fait de donner une genre d'aura de protection internationale, ça permet de déjouer le climat d'impunité qui règne en Colombie dans les corps de police et dans le système judiciaire. puis ça notamment en accompagnant directement les communautés affectées et en dénonçant à l'international les violations de droits humains qui peuvent se produire. Dans le cas d'Arauca, cette tâche a été particulièrement importante ces derniers temps compte tenu de la grave situation en termes de droits humains. On peut souligner le travail remarquable que fait une de nos camarades, Chloé, qui était sur le terrain dans des conditions très difficiles, puis qui a suivi et documenté les activités des organisations sociales qui étaient menacées par les forces dissidentes des FARC. Puis bon, historiquement, on a aussi appuyé les activités des groupes en lutte d'Arauca en favorisant des réseaux d'échange à l'international, notamment en établissant des dialogues avec des militants, des militantes internationalistes, qu'elles soient palestiniens, palestiniennes, kurdes, allemands-allemandes, canadiens, canadiennes ou autres. Puis bon, on a fait quelques films là-dessus, puis bon, le PASC se charge aussi de faire une documentation pour bien expliquer la situation. Puis j'aimerais peut-être toucher un dernier mot là, sur la question de l'accord de paix, parce que je pense que c'est très important aussi pour comprendre autant la situation en Arauca que le contexte global en Colombie. C'est que dans... parlais de la réforme agraire, mais dans le domaine aussi, disons, le domaine urbain, il y a aussi beaucoup de problématiques et le gouvernement Duque est un exemple de ça parce qu'il continue d'appliquer des mesures néolibérales, des mesures qui sont impopulaires et qui s'attaquent au salaire indirect de la population, notamment en sabrant dans les services publics, en augmentant les taxes, les impôts des plus pauvres. Et c'est des situations qui ont notamment contribuer à aux grandes grèves, à la grande séquence de lutte de classe qu'on a vue en Colombie, c'est-à-dire en 2019-2020, mais aussi en 2021. Et dans le cas aussi des FARC, il y a aucune condition de réinsertion, qu'on le disait là, pour les ex-guérilleros pour retourner à la vie civile, ce qui a notamment occasionné un retour aux armes d'un bataillon qu'on avait appelé tout à l'heure la Seconde Marquetalia, en référence à la ville où les FARC ont été fondés, et bon, qui sont retournés aux armes parce qu'il y a des assassinats politiques qui ciblent particulièrement les ex-combattants et les ex-combattantes, mais ces assassinats politiques visent aussi les organisations sociales qui sont, encore une fois, faussement liées, assimilées à des groupes armés, autant par les paramilitaires que l'État, et là, en l'occurrence, le Front 28 des FARC en Arauca. Puis ça fait une situation qui est vraiment terrible. Plus des milliers de leaders sociaux ont été assassinés au cours de l'année. Et le PASC pleure d'ailleurs aussi la mort récente des camarades et amis Teofilo Acuña et Jorge Tafur, qui étaient des leaders paysans associés au CNA et au Congreso de los Pueblos, qui ont été assassinés par des paramilitaires avant-hier, là, donc le 22 février dernier.
Puis si, fait que, tu sais, il y a cette... Il y a ce contexte-là, mais en plus, tu sais, tu parles du rôle de l'État pour réprimer, en fait, les mouvements sociaux, les organisations sociales. Justement, le 25 janvier, le président Duque a signé un texte de loi qui c'est la loi de sécurité citoyenne, qui a l'air d'un beau nom. C'est un texte de loi énorme, assez compliqué. J'ai lu des résumés, mais sans rentrer dans le détail nécessairement parce que c'est complexe. Cette loi-là, quelles sont les conséquences de cette loi-là qui vient beaucoup, je pense, en tout cas, servir encore plus d'outils pour réprimer les mouvements sociaux.
Bien, les assassinats extrajudiciaires, on pourrait dire que c'est la dernière étape de la criminalisation de la contestation sociale en Colombie. Mais en amont, il y a toutes sortes d'opérations judiciaires légales ou semi-légales qui sont opérées. Et puis là, on peut penser notamment à la loi sécurité citoyenne dont tu nous parlais à l'instant. Donc, je pense que cette phrase-là, cette loi-là, elle tient en une phrase dans son explication. C'est que sous prétexte de lutter contre le crime, le gouvernement de Duque cherche à criminaliser la pauvreté et la lutte sociale. Et on a récemment traduit un article des camarades du CEDINS, qui est un groupe d'études colombiens militants, qui caractérise cette approche de populisme punitif, à savoir que c'est une forme de stratégie qui cherche à viser un bouc émissaire responsable de tous les problèmes sociaux et de la criminalité. Puis ici, ça serait les pauvres et les bandits, là, dans le langage du gouvernement. Mais sans considérer les causes structurelles du crime, qui sont évidemment les inégalités sociales.
Ouais.
Et donc, c'est pas un hasard là, qu'on tente de mettre des peines aggravantes sur des crimes mineurs dans un pays où près de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Évidemment, c'est une occasion pour l'État de renforcer les crimes qui sont commis contre les, c'est-à-dire de renforcer la punition qui sont faites contre les crimes
La propriété.
Contre la propriété, contre la police, contre les forces de l'ordre en général, parce que notamment l'objectif c'est de dissuader la confrontation avec les policiers dans les manifestations, puis voilà, d'augmenter les peines qui sont liées à la protestation sociale qui est légitime.
Mais là, il y a quand même, il y a, parlant de Duque, là, son mandat va se terminer, là, parce que en Colombie, c'est juste un mandat. Devrait se terminer ce printemps parce qu'il y a des élections prévues le 29 mai, si tout se passe comme prévu. Là, les sondages semblent favoriser l'ex-guerriero Gustavo Petro, qui a déjà été maire progressiste de Bogota. Est-ce que vous pensez ou pas que son élection peut changer la donne? Est-ce que ça peut être un... Si jamais il est élu, là, mais bon...
Ben alors, je pense que la réponse, c'est oui et c'est non. C'est-à-dire que... ben évidemment, une victoire Petro, ça pourrait changer la donne dans certains aspects de la vie publique en Colombie. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf face à l'ensemble des problèmes structurels qui pèsent sur la Colombie. On a parlé d'un certain nombre d'éléments. Mais si Petro est élu, que pourra-t-il faire face aux pressions de l'impérialisme américain, la corruption des institutions publiques, l'influence du capital étranger, le paramilitarisme? Autant dire pas grand-chose. Les problèmes de la Colombie peuvent pas être résolus par l'action d'un seul homme, d'un seul politicien. La résolution de ces problématiques sociales-là nécessite la convergence d'un mouvement de masse populaire, et donc d'autant plus qu'en admettant que les classes dominantes acceptent la victoire de Petro, parce que même si la Colombie n'a pas connu une longue tradition de coups d'État comme certains autres pays latino-américains, ça ne veut pas dire que la classe dominante va se laisser faire. C'est la droite est au pouvoir en Colombie depuis la fin de l'alternance bipartisane, donc ça a toujours tourné rondement jusqu'à présent. Donc rien garantit qu'il ne va pas avoir de magouille électorale. Ça se voit fréquemment dans les élections encore aujourd'hui. Et rien n'est garanti non plus qu'il ne va pas avoir de tentative extra-légale pour renverser Petro. Rappelons que l'extrême droite est dans ce pays lourdement armée. Mais bon, dans tous les cas, même si on peut être relativement optimiste face à l'idée de voir Petro président, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et évidemment la lutte de continuer.
Ben merci, cher Nathan. C'est comme trop peu. On pourrait faire une émission complète à parler juste de la Colombie, tellement les enjeux sont... on aurait pu parler des déplacements de population intra-frontières. Je vous invite, chers auditeurs, auditrices, si vous voulez rester informés sur ce qui se passe en Colombie, les développements, mais les activités du PASC aussi, qui sont assez actifs, allez visiter leur site web, pasc.ca. Et puis... ben voilà, merci encore.
Merci à vous.
Oui, donc on va aller en musique rapidement avec Delgrès, un artiste français, et la pièce L'École. On est aux Apatrides Anonymes. toujours sur choc.ca. Vous êtes aux Apatrides Anonymes, émission du 24 février 2022. Merci Marie-Ève pour l'entrevue. Merci aussi à notre invité Nathan du PASC. On écoutait la pièce L'école du trio Delgrès de leur album 4h AM qui est sorti, ça fait quelques semaines. Delgrès, c'est un band parisien, un genre de power trio incluant un sousaphone. On peut qualifier leur musique de blues caribéen avec des touches Nouvelle-Orléans. C'est vraiment très bon. Un gros coup de cœur pour moi. Les thématiques abordées, souvent en créole, l'exploitation, l'esclavage, l'immigration, mais toujours avec une touche d'humour et d'espoir. Le nom du band est un hommage au héros guadeloupéen Louis Delgrès, abolitionniste et résistant face à Napoléon. On va retrouver Mathieu dans un instant pour des enjeux d'immigration principalement. Tout d'abord, vous parlez d'un texte signé Francis Dupuy-Déry qui est paru dans Pivot dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On y énumère plusieurs éléments pour nous rappeler à quel point le mois de l'histoire des Noirs est tout sauf un luxe. Les menaces de mort, les très nombreux appels à la bombe contre des établissements universitaires de tradition afro-américaine, ce qui force toujours des évacuations. Il y en a eu une vingtaine depuis le début du mois seulement aux États-Unis. Les quantités d'événements à caractère suprémaciste, ceux qui sont tenus sur des campus, il y en a des centaines. Dans l'article, les données sont plus précises que ça. On parle aussi de graffitis haineux, de banderoles Black Lives Matter détruites. Ce qui est paradoxal, c'est que la fameuse cancel culture qui est constamment évoquée par la droite et l'extrême droite, le fameux « on peut plus rien dire », ou l'idée selon laquelle les présumés woke ou les snowflakes de gauche auraient pris le contrôle des universités américaines, et ici aussi au Canada, au Québec, on entend beaucoup ce discours de victimes postillonneuses, là, je dirais pas qui. Ben, le paradoxe, c'est tant qu'il y a une vraie cancel culture très organisée qui est en opération actuellement aux États-Unis, c'est pas celle qu'on pense. C'est la guerre menée à ce qu'on a défini comme la Critical Race Theory, ou la théorie critique de la race, qui est un terme qui existait déjà, mais que le leader de ce mouvement de cancellation, Christopher Ruffo, collaborateur de Fox News et proche de Trump, a réussi à complètement détourner de son sens premier pour y mettre tout ce qu'il faudrait combattre, tout ce qui ne va pas dans le sens d'un patriotisme illuminé. Il faudrait donc plus parler de l'esclavage, de la ségrégation, des droits civiques, des génocides, du colonialisme, du racisme. Ben, il faudrait plus parler de l'histoire des États-Unis. Ce qui fait en sorte que les États parmi les 50 États, là, ils sont de plus en plus nombreux qui se votent des législations pour exclure des bibliothèques et des cursus scolaires et de l'espace public en général, certains auteurs, autrices et des thématiques complètes. La censure peut aller aussi loin que des œuvres qui abordent l'Holocauste ou un personnage homosexuel. Donc, vous voyez, on est très loin de l'encadrement suggéré d'un mot blessant, là, comme le débat qu'on a ici. Il faut faire attention aussi parce qu'au Canada, les idées conservatrices qui prennent forme aux États-Unis, elles finissent souvent par atterrir ici, avec quelques années de retard. Alors, il faudrait se méfier de cette grande noirceur potentielle. Donc, article à lire dont le titre est « Mois de l'histoire des Noirs, deux points des nouvelles du Front Sud ». Mathieu, à toi la parole. Profite-en, tu as encore le droit de t'exprimer.
Oui, comme sur pivot.québec.
C'est bien de donner le site, effectivement.
je vais en parler tantôt d'ailleurs. On les aime bien ces temps-ci. Ben oui, un peu des tragédies qui ont passé entre les Olympiques et une guerre en Europe et une loi sur les mesures d'urgence. Hein. Qu'est-ce qui reste comme place pour parler des personnes? Ben, le 13 février dernier, Solidarité sans frontières a organisé une vigile devant les bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada à Montréal. Pourquoi? Parce que le 30 janvier, un autre décès est survenu au centre de surveillance de l'immigration de Laval. On ne sait rien de l'identité de cette personne, parce que, évidemment, c'est pas des raisons de confidentialité. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne était migrante et qu'elle était détenue à des fins administratives. Pour SSF, c'est une mort scandaleuse qui arrive à la suite d'une autre tragédie il y a quelques semaines. Celle d'une famille indienne qui est morte de froid en tentant de traverser la frontière au Manitoba. Ça, c'est vraiment dramatique. Ce décès n'est pas le premier dans les centres de détention gérés par l'agence et ses compagnies contractantes, dont Garda. Dans les 20 dernières années, c'est plus d'une quinzaine de personnes qui ont perdu la vie, parfois par suicide, mais aussi à la suite de mesures de contrôle, de contention corporelle ou encore par manque de soins. Ça, c'est au Canada. Ça fait seulement quelques années que l'agence annonce publiquement les décès qui surviennent sous sa responsabilité. Avant, il n'était pas obligé de le faire, mais quand même pas pire. Cependant, les circonstances de ces décès demeurent souvent opaques et l'agence invoque la protection de la vie privée pour ne rien divulguer. Comme à l'habitude, dans ce cas-ci, la personne qui est morte à Laval récemment, ce sera un autre corps policier qui mènera l'enquête puisqu'il n'existe aucune entité d'enquête indépendante qui surveille l'agence.
Ça risque d'être la SQ.
C'est la SQ, Simon, j'allais le dire. Bravo, bravo.
Un bon point pour moi.
Oui, un bon bon point pour toi, tu suis. Donc, ben c'est ça, c'est cette nouvelle-là qu'il y a eu. Et autre chose, je suis tombé un peu par hasard, un travailleur agricole frappé par la foudre dans un champ à Oka, la CNSST dévoile les conclusions de son enquête. C'est un homme qui s'appelle Oscar Antonio Vicente Torres, qui est décédé le 10 août 2021 à Oka. La CNSST retient deux causes pour expliquer l'accident. Tu vas voir, c'est très, très ingénieux. Okay. Le travailleur a été frappé par la foudre alors qu'il travaillait à découvert dans le champ de chou-fleur. Et en l'absence de procédures associées au danger que représente la foudre, les travailleurs ont poursuivi leur travail dans le champ lors du passage de l'orage. Donc, la CNSST a exigé à l'employeur qu'il élabore une procédure d'évacuation des champs en cas d'orage et qu'il mette en place des moyens de surveillance des conditions météorologiques. De plus, la CNSST a exigé que les travailleurs travailleurs soient formés sur les dangers d'être frappés par la foudre et sur la procédure d'évacuation. On dit que l'employeur s'est conformé à ses exigences. Et là, ils veulent l'étendre à l'ensemble des producteurs agricoles, de dire que quand il y a de la foudre, il faut aller se mettre à l'abri, par exemple. Donc ça, c'est assez je sais pas comment dire.
Basique.
Sidérant. Sidérant. Je vais terminer avec une nouvelle, une campagne qui s'appelle hashtag Bienvenue au Canada. C'est par nos amis de Amnesty et du Human Rights Watch.
Les radicalisés d'Amnesty.
Ouais, les antisémites, là. donc, ils lancent une campagne nationale qui exhorte les provinces, dont le Québec, à annuler des contrats ouvrant la voie aux abus. On parle ici des gouvernements des provinces canadiennes qui devraient résilier les contrats permettant la détention de personnes migrantes dans des prisons provinciales, dans des conditions de détention parfois abusives. Bien que les autorités canadiennes aient libéré un nombre considérable de migrants détenus depuis le début de la pandémie, en mars 2020, la proportion de migrants placés dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance, malgré que ça se passe pas toujours bien comme on a vu, cette proportion a plus que doublé dans les six mois qui ont suivi le début de la pandémie. Par exemple, récemment, la Colombie-Britannique a annoncé vouloir renégocier avec le fédéral pour avoir des personnes migrantes dans ses prisons provinciales pour changer, entre autres, les conditions. Juste rappeler qu'il y a un rapport qui est sorti en 2020 qui s'appelait « Je ne me sentais pas comme un être humain, la détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale ». On y apprenait que d'avril 2019 à mars 2020, le Canada a incarcéré plus de 8000 personnes âgées de 15 à 83 ans, dont 1900 personnes dans des prisons provinciales. Durant la même période, 136 enfants, dont 73 âgés de moins de 6 ans, ont été placés en détention et que depuis 2016, le Canada a maintenu plus de 300 personnes migrantes en détention pendant plus d'un an. Et ça, en général, c'est dans les prisons provinciales. Donc, il y a vraiment un enjeu, c'est un peu technique, mais entre les centres de surveillance, qu'on critique aussi, évidemment, mais les prisons provinciales où les gens se retrouvent complètement perdus là-dedans. Et on rappelle que les gens sont la plupart du temps là pour des raisons administratives. Voilà.
Merci Mathieu, petit pont musical et je vous reviens avec d'autres brèves, d'autres nouvelles dans un tout petit instant. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, deux thématiques ont retenu notre attention. La représentation des Noirs, un, dans les livres d'histoire québécois et deux, dans la toponymie québécoise. Dans la toponymie montréalaise, en fait, sur plus de 6000 noms de voies, parcs et édifices publics à Montréal, il y en a combien qui représentent des personnalités noires? 29, donc 29 sur 6000. Dans la plupart des arrondissements, dont Côte-des-Neiges, NDJ et Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, c'est zéro toponyme issu des communautés afro. Dans Montréal-Nord, un seul, même si c'est l'arrondissement avec la plus forte proportion d'afro-montréalais avec 22%. Le meilleur élève, avec des gros guillemets, c'est le Sud-Ouest avec 9. Wow! On sait que la petite Bourgogne qui se trouve dans l'arrondissement est historiquement un quartier avec une forte communauté noire, notamment antillaise. C'est juste à partir des années 80 qu'on a commencé à avoir des noms de personnes noires intégrées à la toponymie montréalaise, mais depuis ce temps-là, on est en très, très, très légère augmentation. Mais on peut pas parler de progression, les chiffres sont trop microscopiques pour ça. 6 toponymes attribués dans toutes les années 80 versus 10 dans toutes les années 2010, donc on peut pas dire que ce soit très significatif. Donc, dans la toponymie montréalaise, on constate une invisibilisation presque totale de la communauté noire. Dans les livres d'histoire, c'est autre chose. On pourrait plutôt parler de déshumanisation des personnes noires. En fait, je dis livre d'histoire, mais on pourrait élargir au manuel scolaire en général et même à la littérature en général, ou pourquoi pas à la culture populaire dans son ensemble. Il y a la chercheuse en histoire, Catherine Larochelle, qui s'est intéressée à la représentation des populations arabes, noires et autochtones dans les manuels scolaires québécois du début du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. On peut lire son analyse dans son ouvrage « L'école du racisme 1830-1915 » qu'elle a publié en novembre dernier. Je ne l'ai pas lu, mais ça m'intéresse. Ce qu'elle observe est assez troublant. Dans les manuels scolaires, les personnes noires ne décident jamais de leur propre sort. Elles n'ont pas de prénom, pas de métier, pas de sensibilité. Ça, c'est vraiment systématique. La personne noire est parfois décrite comme une bête de somme sauvage, ignorante, superstitieuse, adoratrice de fétiches. On parle explicitement de civilisation arriérée. Madame La Rochelle constate que les autres groupes n'échappent pas à cette déshumanisation, mais qu'il y a un petit peu plus de nuances. Elle note que les Arabes sont parfois présentés comme des hommes d'esprit, parfois, et que les Autochtones ont parfois, le mot parfois est important ici, une culture. Dans les manuels d'histoire, alors que les personnes noires, elles, sont systématiquement représentées comme des sauvages, point. On note aussi des médias, des journaux surtout, qui présentaient de manière continue pendant des décennies les Noirs comme étant exclusivement des criminels, mais surtout des voleurs. Tout ça alors que l'esclavagisme au Québec et à Montréal est complètement occulté, alors que, on sait, ça a longtemps été un commerce très florissant. Dans les années 60, il y a le sociologue Marcel Trudel qui a enfin parlé de notre passé esclavagiste, mais de façon jugée aujourd'hui naïve et teintée de nationalisme. Par exemple, nous, Canadiens français, on aurait bien traité nos esclaves, ils faisaient partie de la famille, genre de cliché qu'on entend encore. On est un peu dans le même mythe manichéen selon lequel le génocide autochtone, ce serait surtout l'œuvre des Britanniques, alors que nous, j'en dis français, on était les amis des Premières Nations. Mythe assez tenace et répandu d'ailleurs jusque dans les milieux académiques actuels. J'ai l'impression qu'on commence à peine à nommer les choses, en espérant qu'on ne se retrouve pas au Québec avec un mouvement du genre anti-critical race theory qui va chercher à museler toute analyse ou critique par rapport à ces questions-là. Il ne faut pas nécessairement se tordre de remords par rapport à notre passé, mais au moins reconnaître et accepter la réalité. On se demande parfois d'où viennent nos préjugés actuels. Certains disent qu'on est dans une société post-raciale, mais peut-être ce conditionnement raciste martelé pendant des siècles, que ce soit par l'invisibilisation systématique, comme on a vu dans la toponymie, ou la déshumanisation dans un cadre scolaire, il y a des chances que tout ça soit responsable de notre vision actuelle des choses. Beaucoup de travail à faire. Mathieu, tu as des actualités autochtones, justement, pour nous, au Québec, Canada, principalement, j'imagine?
Oui, c'est au Québec pas mal. Mais merci pour ton analyse, Simon, très, très pertinent.
Ça fait plaisir.
Oui, on parle de forêt, on parle de droit, de territoire. Le Conseil des Atikameks de Manawan a fait arrêter les opérations forestières du groupe Crête en utilisant un nouveau règlement administratif, et ce, à la demande d'une famille qui ne voulait plus de coupe sur son territoire familial. On est dans la Naudière. Malgré le territoire, le moratoire imposé par Manawan début novembre, les coupes se poursuivent sur le territoire ancestral de la nation Atikamekw, le Nitaskinan. Donc, un groupe composé de membres de la famille Échaquan, pas tout à fait, mais pas les mêmes personnes dont on a entendu parler.
De la même région, en tout cas.
Oui, toujours la Naudière, toujours Manawan. Donc, les membres de la famille, un élu du conseil des Atikamekw et d'autres membres de la communauté s'est rendu au camp forestier du groupe Crête pour lui signifier de cesser toutes les coupes forestières dans les 24 heures. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un exemple, c'est un débat qui dure depuis un bout de temps avec les Atikamekw sur la question des coupes forestières, fait que là, ça bouge plus. Le 18 janvier, il faut rappeler que le 18 janvier, le Conseil des Atikameks de Manawan a durci le ton dans le dossier des coupes forestières en adoptant un règlement administratif concernant l'imposition de moratoire. Toute personne ou compagnie forestière qui accède sans droit ni autorisation sur son territoire traditionnel pour faire de l'exploitation pourrait être expulsée par la police et recevoir une amende allant jusqu'à 50 000 $. Ça, c'est un règlement comme municipal.
Okay.
Pour rappel, en mars 2021, le Conseil des Atikameks avait demandé au gouvernement québécois d'imposer un moratoire et la réponse a été non.
Ah.
Ben non, c'est ça. Fait que donc, ils ont décidé de faire leur propre moratoire en novembre, mais là, ils commencent à l'appliquer avec un règlement et avec des interventions. Mais en fin de semaine dernière, il y a eu une rencontre entre le Conseil des Atikameks de Manawan, le Conseil de la Nation Atikameks du Québec et le ministre des Forêts. Les chefs ont proposé au ministre Pierre Dufour la création d'un comité de travail afin de trouver une entente, vraiment mettre ça concrètement sur le plancher au niveau de la répartition des terres, qui a le droit, les amendes quand c'est pas respecté, etc. Mais pendant que les discussions avaient lieu, donc en fin de semaine passée, une deuxième famille a demandé à une compagnie forestière de cesser ses coupes et de sortir les machines du territoire.
Okay.
Selon la famille Dubé, la série Saint-Michel a aménagé un chemin d'au moins 3 km dans une érablière que la famille considère comme une zone protégée. Donc, ils ont brisé l'entente et c'est pas la première fois, selon la famille. Il faut dire que l'entente d'harmonisation est normalement signée d'une part entre un chef de territoire qui surveille et autorise l'accès et d'autre part le gouvernement. Et elle comprend l'entente, ce qui est autorisé par la famille en matière de coupes forestières. Or, finalement, après l'intervention, les machines ont toujours continué le lendemain à couper des arbres. Et ce que répond le PDG de la Syrie, c'est que tant que l'État ne nous dit pas d'arrêter, on continue. On est un client de l'État. Donc, c'est vraiment ça la dynamique qui est pourrie actuellement.
Ouais, ils servent un petit peu de la machine administrative qui est tout croche, qui est viciée pour...
la question des terres publiques, là, la question, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Fait que c'est à suivre au niveau des Atikamekw pour voir un peu, parce qu'il va y avoir d'autres interventions, d'autres choses de ce genre-là qui vont se passer. Peut-être vous dire rapidement aussi, ça s'est passé en fait semaine passée aussi, la GRC enquête sur une confrontation violente dans un chantier à près de Houston en Colombie-Britannique. Okay. Vous allez voir de quoi qu'on parle. La GRC a été appelée en pleine nuit par des employés de Coastal GasLink qui alléguaient avoir été attaqués par une vingtaine de personnes dont certaines brandissaient des haches.
Oh là là.
La GRC raconte que la route qui mène au chantier général était jonchée d'arbres abattus, de souches recouvertes de goudron, de câbles et de planches transpercées de pointes. La police soutient que les personnes leur ont lancé des bombes fumigènes et des bâtons en feu alors qu'ils tentaient de se frayer un chemin sur la route et qu'un agent a été blessé. L'entreprise gazière affirme qu'elle a subi des dommages à ses équipements et s'élevant à plusieurs millions de dollars. Ça s'est passé au même endroit où un campement et un barrage avaient été installés l'automne dernier par des opposants au projet et qui ont été démantelés deux mois plus tard par les policiers. C'est là qu'il y a eu beaucoup de manifs dernier. On rappelle qu'il y a une injonction de la Cour suprême de la province qui interdit aux opposants au gazoduc d'entraver l'accès au chantier. Mais comme on voit, la lutte continue.
Ouais, puis c'est féroce, là. C'est un vrai film d'horreur.
Ben, ça, c'est une action directe qu'on appelle, de guérilla un peu, là. Puis il n'y a toujours pas eu d'arrestation dans ce cas-ci. Fait qu'on sait pas trop. Hein. Sinon, on va dire une suggestion de lecture sur Pivot.Québec, Simon. Un article s'appelle « Je serai toujours Wet'suwet'en ». Juste pour un article intéressant qui nous rappelle que le 15 janvier dernier, les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en ont tenu un sommet dans la ville de Smithers, toujours en Colombie-Britannique, et les représentants d'autres nations autochtones se sont joints aux chefs pour offrir leur solidarité et leur soutien dans la lutte contre le gazoduc. Donc là, il y a beaucoup de Premières Nations et d'autres alliés qui se sont réunis encore en janvier pour poursuivre la lutte en 2022. Fait que la question de Wet'suwet'en, Coastal GasLink, on va en réentendre parler pas mal.
Le titre du site ou de l'article?
Ça? L'article, c'est je serai toujours Wet'suwet'en, les opposants Pipeline, Coastal GasLink solidifient leur alliance.
Super.
Sur Pivot.
OK, cool. Donc, un petit pont musical et on revient avec l'agenda des Apatrides Anonymes. On parlait tantôt d'esclavage au Québec qui est pas mal occulté, d'enjeux autochtones. Donc, suggestion de balado sur Marguerite Duplessis, qui est en 1740 la première esclave et la première autochtone en Nouvelle-France à se battre en justice pour obtenir sa liberté. Je vous divulgue pas l'issue de la bataille juridique de Marguerite Duplessis pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, il faut écouter le balado enquête d'Émilie Monet. 4 épisodes de 25 minutes à peu près. Ça s'appelle Marguerite, la traversée. Et c'est en écoute gratuite sur onishka.org. Ce sera accompagné d'une pièce live Marguerite, le feu, présentée du 15 mars au 2 avril 2022 à Espace Go. Et aussi de Marguerite, la pierre, un parcours sonore dans le Vieux-Montréal qui sera possible de faire du 7 mai au 6 juin. Sinon, à l'agenda, la nouvelle publication du COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, le journal État policier, version 15 mars 2022, qui est déjà disponible. Vous pouvez le consulter ou l'imprimer à partir de cobp.resist.ca. Avec pas mal de thématiques cette année anticoloniales, shutdown de colonial police ou encore la police autochtone, deux points, une main allochtone dans un gant autochtone. Et pour rejoindre ce dont notre invité Nathan discutait avec nous tantôt, on y parle aussi du rôle de la police dans la répression de la grève nationale en Colombie. Et autres éditoriaux bien sentis dans ce nouveau numéro tout frais d'État policier maintenant disponible. Dernière suggestion à l'agenda, une marche avec pour thématique les luttes des femmes au-delà de la pandémie. C'est dans le cadre de la Journée internationale des femmes et c'est organisé par femmes de diverses origines. Rendez-vous le dimanche 6 mars, donc pas ce dimanche, l'autre, à 14h au métro Parc. Il y a aussi un webinaire la veille, samedi 6 mars à 11h pour vous inscrire ou pour toute autre info, wdofdo@gmail.com. Ça va être la fin de l'émission, la conclusion dans un petit instant. Les apatrides anonymes du 24 février 2022, c'est presque fini. On devrait se retrouver le 10 mars 2022.
Je serai là.
Marie-Ève sera là aussi, je crois.
Ah, il y a des bien bonnes chances. Il y a très, très bonnes chances, oui.
OK, ben je vais peut-être y être aussi. Nos coordonnées, évidemment, notre page est sur choc.ca avec tous nos podcasts en rattrapage, notre site web apatridesanonymes.info. On a une page...
FB.
Merci Mathieu. Merci M... Ah, je ne dis pas ton...
Non, je suis anonyme.
Et notre courriel apatridesanonymes à resist.ca. Vous entendiez la voix de M.E. En tout cas, on salue tout le monde qui nous écoute sur choc.ca, évidemment, et aussi sur les ondes de Radio Victoria au 107.9 FM en Colombie-Britannique. Plus d'infos sur Radio Victoria tout ensemble.ca. Avant de saluer mes comparses Marie-Ève et Mathieu, je vous garde pour la fin, là, je vous oublierai pas, vous dire quelle musique on écoute pour se quitter. On commence avec Joël Martel. Nazi épise, fuck off, très très dans l'actualité, camionneuse et klaxonneuse, klaxonniaiseuse, portez attention aux paroles. Ça parle des New Age, santé spirituelle, pierres magiques, qui sont de plus en plus alliés dans la lutte pour la liberté avec les groupes d'extrême droite recyclés en pourfendeurs de mesures sanitaires. C'est très drôle. Je connaissais Joël Martel plus comme un genre de poète déjanté à la Urbain des Bois. Peut-être là, j'ai l'impression qu'il est plus dans la satire cru à la Mononcle Serge ou sexe illégal.
On croirait entendre Humus Langevin.
Mais il y a aussi, il a fait beaucoup de radio et des tunes régulièrement, tu sais, un peu sur l'actualité. Il a fait ça un peu. Il est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, lui, il est installé là. Okay. Puis il a fait des dans les radios communautaires, à Radio-Canada, il me semble aussi. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de concerts aussi avec son style lo-fi, on peut dire, oui.
Lo-fi, quand même bien travaillé. il a sorti deux chansons en février. L'autre s'appelle « Je veux revenir à ma vie d'avant ». Et les deux singles paraissent sous le titre « Liberté, ER à la fin ».
Oui, oui, tout à fait.
Comme un verbe, oui.
Ben, il faut conjuguer les noms.
Un verbe actif.
on va écouter d'autres artistes montréalais après Nazi et Peace Fuck Off. C'est une collaboration de Away, le batteur de Voivode, avec Disquiet Army, dans un style complètement différent, ambiant, dark, un peu noise, la pièce Delta 00001. Sur l'album double de Singularity et qui, à l'achat, vient avec un flipbook que j'ai pas vu. Par contre, on les a vus... on a vu Disquiet Army en show, mais c'était un autre projet. C'était pas avec Away. C'était à la Salle Rosée il y a quelques semaines. C'était jouissif. On va remercier... Il est plus là, mais on le remercie quand même, notre invité Nathan.
Nathan, oui.
Merci, Marie-Ève, pour la belle entrevue très, très touffue, très éclairante que tu as menée avec lui. Il était bien documenté quand même. Hein?
Oui. Ça paraît qu'il
était prêt. Il était prêt.
Il était prêt, puis ça paraît qu'il y a passé plusieurs mois... en Colombie.
Ben, il débarquait, en fait. Je pense que c'est assez récent. Mathieu, merci pour toutes les chroniques, les brèves, les nouvelles. On se souhaite tout le monde bonne soirée. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On se retrouve le 10 mars. On écoute Joël Martel, suivi de Disquiet Army avec Away. Bonne soirée.
Bye.
Avec ça dedans, tu étais un être de lumière. C'est fucké la pandémie parce que t'es rendu chum avec des nazis. C'est du scama qu'on m'appelle ça. Quelqu'un qui s'installe à la même table que trois autres nazis. On appelle ça des nazis autour d'une table.